Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Quarante pays demandent la levée des sanctions contre l'autorité palestinienne, sanctions imposées par Israël après le vote d'une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU. Ce sera sa première visite en France en tant que président de la République d'Algérie. Abdelmadjid Tebboune en visite d'État en mai prochain. Une visite convenue lors d'un entretien téléphonique avec Emmanuel Macron. Nous y reviendrons avec Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie. 11 soldats ont été tués en Somalie. Ils sont morts lors d'une attaque contre un camp militaire, attaque revendiquée par les terroristes Chebab. Journée de mobilisation ce mardi dans l'éducation nationale. La FSU, première fédération syndicale enseignante, demande de meilleures conditions de travail et une revalorisation de salaire de l'ensemble des personnels. La contestation se poursuivra jeudi prochain pour protester contre la réforme des retraites. Notre invité sera le secrétaire général de la FSU, Benoît Teste. Une quarantaine de pays demandent la levée des sanctions adoptées par Israël contre l'autorité palestinienne. Ces sanctions, notamment financières, ont été prises après l'adoption d'une résolution onusienne demandant à la Cour internationale de justice de se pencher sur l'occupation israélienne. La déclaration qui demande la levée de ces sanctions est signée par des pays qui ont voté pour cette résolution, comme l'Algérie, l'Argentine, la Belgique, le Pakistan, l'Afrique du Sud ou encore l'Irlande, mais aussi par certains qui se sont abstenus, comme la France, le Japon et la Corée du Sud, et d'autres qui ont voté contre, comme l'Allemagne et l'Estonie. Le président algérien se rendra en France en mai prochain pour une visite d'État. C'est ce qu'indique la présidence algérienne dans un entretien avec l'écrivain algérien Kamel Daoud, publié le 11 janvier par l'hebdomadaire Le Point. Emmanuel Macron a dit espérer accueillir Abdelmadjid Tebboune en France en 2023. Cela pour poursuivre le travail de mémoire et de réconciliation entre les deux pays. À la fin de l'année dernière, le président algérien avait salué la nouvelle relation de confiance entre la France et l'Algérie. Une déclaration 4 mois après la visite à Alger d'Emmanuel Macron. Nous y revenons avec Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie.
Fin août 2022, Macron était venu en Algérie. Le président Macron visite l'Algérie pour la deuxième fois depuis son élection. Et cette visite était pour tourner la page d'une crise qui a duré plusieurs mois, puisque on avait parlé à l'époque, on avait signé même un partenariat, une déclaration de partenariat renouvelée, puisque beaucoup de dossiers relatifs à la coopération économique, technique, scientifique, culturelle et dans d'autres dossiers étaient pratiquement gelés en raison de la crise diplomatique provoquée par les déclarations de Macron lui-même, qui s'est posé des questions sur la rente mémorielle selon lui, s'est posé des questions sur la nation algérienne, est-ce qu'elle existait avant la colonisation française en 1830. Et il a accusé le pouvoir en Algérie d'utiliser l'histoire comme une rente, ce qui a bien sûr provoqué la crise à Alger, rappel de l'ambassadeur d'Algérie à Paris. Et cette crise a été encore approfondie par la décision de Paris de réduire de 50% le nombre de visas accordés aux Algériens, parce que à Paris accuse Alger de ne pas rapatrier des Algériens en situation irrégulière en France. Cette crise donc a duré plusieurs mois. Il a fallu une relance début janvier 2022 avec une réunion de consultation politique avec la venue de Jean-Yves Le Drian, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères. Il est venu 2 fois. Et là, on donne l'impression de donner dans une nouvelle phase de cette relation, surtout que Paris a décidé d'annuler sa décision de réduire de 50% le visa pour les Algériens. C'est une décision qui a été aussi prise pour le Maroc et pour la Tunisie. Et il y a eu des visites aussi ces derniers temps, pour notamment celle de Gérald Darmanin, qui est le ministre de l'Intérieur français, pour essayer d'ouvrir de nouvelles phases, de nouvelles pages dans la coopération, notamment en matière de lutte contre la migration clandestine.
La question mémorielle reste-t-elle un enjeu fondamental aujourd'hui entre les deux pays ?
Oui, absolument. Même si le président Macron, dans une récente déclaration, plutôt interview accordée au magazine Le Point, une interview menée par l'écrivain algérien Kamel Daoud, disait qu'il n'était pas concerné de présenter des excuses ou de reconnaître les crimes coloniaux. Malgré cela, l'Algérie continue de demander la reconnaissance d'abord des crimes coloniaux à partir de 1830, parce qu'on a tendance à réduire la colonisation aux années 50, c'est-à-dire le début de la guerre de libération nationale en Algérie, ce qu'on appelle la guerre d'Algérie en France, non seulement reconnaître, mais aussi réparer, puisqu'il y a des victimes des essais nucléaires français dans le sud algérien dans les années 60. Entre 1961 et 1967, il y a eu 17 tests atomiques. Les Algériens parlent d'explosions atomiques, notamment dans le sud algérien, ce qui a provoqué beaucoup de dégâts pour la nature, pour l'environnement et aussi pour les habitants. L'Algérie demande à ce que ces victimes soient indemnisées, demande aussi à ce que les sites qui ont servi à ces essais nucléaires soient nettoyés complètement par les autorités françaises, puisqu'ils sont toujours pollués, plus de 60 ans après. Et parmi les demandes algériennes, également la restitution de l'ensemble des archives, puisque la colonisation de l'Algérie a commencé par des détournements de beaucoup d'archives trouvées en Algérie vers la France, des archives qui concernent les terres agricoles, le foncier, les héritages, l'habitation, l'architecture, etc. Donc l'Algérie aussi exige que toute la vérité sur les disparus, puisque les disparus algériens de la guerre de libération nationale, puisqu'entre 1956 et 1957, les troupes françaises qui étaient en Algérie avaient kidnappé beaucoup d'Algériens dans le cadre de la lutte contre l'insurrection, comme cela a été évoqué à l'époque. Et donc ce dossier reste complètement fermé, il n'a pas été ouvert même 60 ans après l'indépendance.
Et sur la question mémorielle, des avancées ont eu lieu suite à la remise du rapport Stora au président français, l'historien Benjamin Stora.
Oui, puisque bon, il y a eu certaines reconnaissances, mais timidement. D'abord Maurice Audin, qui était un militant anticolonialiste, qui a été aussi tué dans des conditions troubles par les troupes françaises. Le président Macron a reconnu qu'il s'agit de la responsabilité de l'État. La même chose pour Ali Boumengel, qui aussi a un avocat qui a été tué par des soldats français. Mais tous les autres dossiers restent entiers, puisque le rapport Benjamin Stora, qui est un historien qui connaît bien l'Algérie, a été froidement accueilli en Algérie, parce que ce rapport n'a pas du tout évoqué la question de la réparation par rapport aux essais nucléaires français, mais aussi par rapport à la reconnaissance des crimes coloniaux.
Une visite d'État du président algérien Abdelmadjid Tebboune en France, ce sera une première depuis son élection.
C'est une première depuis son élection, effectivement, en 2019. Et le président Tebboune s'est rendu déjà dans plusieurs autres pays. Il a visité la Turquie, l'Italie, le Qatar, l'Égypte, l'Arabie Saoudite. Et il doit se rendre aussi durant le courant de l'année 2023 en Russie et en Chine, comme il a lui-même annoncé. Cette visite prévue en mai 2023 du président Tebboune sera la première d'un président algérien depuis presque 10 ans. La dernière était celle de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, qui s'est rendu en France en 2000. Il s'agit aussi de relancer la coopération économique entre les deux pays. La France est un partenaire et un client important de l'Algérie, comme le sont d'autres pays comme l'Italie ou l'Espagne ou les États-Unis, et la Chine également. Et aussi, la Chine est très présente en Algérie, dont elle a beaucoup de projets, notamment dans la faveur de la coopération. La Turquie aussi est un gros investisseur en Algérie. L'Algérie souhaite aussi que ses partenaires investissent plus, c'est-à-dire un investissement direct, créateur de emplois, créateur de richesses, refuse que le pays demeure un marché pour les entreprises, notamment parce que côté français, on reprend souvent en français d'utiliser que le commerce, c'est-à-dire vendre des produits pour les Algériens, au lieu d'investir et de créer d'emplois. Il y a plus de discours que d'actes concrets. Donc il s'agit de relancer cela. Peut-être cette visite d'État du président Abdelmadjid Tebboune va relancer cette coopération et aussi reposer la question de la mémoire qui reste toujours importante, même si le président Tebboune, dans une récente interview accordée au journal Le Figaro, avait déclaré que le président Macron est une incarnation, je le cite, d'une nouvelle génération qui peut sauver les relations entre les deux pays. Son atout, a-t-il dit, est qu'il n'a rien à voir avec la colonisation, ni lui, ni son parcours, ni sa famille. Donc il a parlé d'une amitié réciproque. Il souhaite que le président Macron, qui donc fait son deuxième mandat, va relancer cette question de la mémoire, mais également d'autres dossiers. Notamment, il s'agit de coordonner les questions sécuritaires et aussi relancer la coopération scientifique, puisque l'Algérie souhaite aussi améliorer le niveau d'enseignement supérieur, notamment avec ses partenaires.
Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie. Et la justice algérienne a confirmé la détention provisoire du patron de presse Hissan El Kadi. Il est incarcéré depuis le 29 décembre dans le cadre d'une enquête pour collecte illégale de fonds et atteinte présumée à la sûreté de l'État. La chambre d'accusation de la cour d'Alger a rejeté dimanche l'appel interjeté par le journaliste contre son incarcération. Reportage Reporters sans frontières souligne que son arrestation est intervenue quelques jours seulement après la publication d'articles critiques envers les autorités. 11 soldats ont été tués en Somalie. Ils sont morts lors d'une attaque contre un camp militaire. Attaque revendiquée par les terroristes Shebab. Cela intervient au lendemain de l'annonce par le gouvernement de la reprise d'une ville stratégique, la ville côtière de Harader, située à 491 km au nord-est de la capitale Mogadiscio. Plusieurs ONG ont repris partiellement leurs activités avec du personnel féminin en Afghanistan. Ces organisations non gouvernementales ont reçu l'assurance des autorités talibanes que les femmes peuvent continuer à travailler dans le secteur de la santé. Le 24 décembre dernier, le ministère afghan de l'économie avait annoncé que les ONG avaient désormais interdiction de travailler avec des femmes afghanes. La Tunisie a accueilli 6 400 000 touristes au cours de l'année 2022, une annonce du ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Les recettes touristiques ont dépassé l'an passé les 4,2 milliards de dinars. Journée de mobilisation dans l'éducation nationale. Ce mardi, la FSU, première fédération syndicale enseignante, demande de meilleures conditions de travail et une revalorisation de l'ensemble des personnels, revalorisation des rémunérations. La contestation se poursuivra jeudi prochain pour protester contre la réforme des retraites. Entretien avec le secrétaire général de la FSU, Benoît Test.
On va se concentrer là maintenant beaucoup sur la journée du 19 en termes de grève et en termes de côté massif de l'action qui est nécessaire parce que la question des retraites, d'abord elle fait l'unité contre elle, hein, cette réforme, donc il y a effectivement toutes les organisations syndicales. Le monde de l'enseignement n'est pas le dernier touché puisque être devant une classe à 63, 64, 65 ans, c'est pas pour dire que c'est plus compliqué qu'ailleurs. On sait bien, à l'hôpital, une caissière de supermarché, etc., tout ça, ce sont des métiers effectivement pénibles, dont la pénibilité n'est pas reconnue. Et donc, il y a un vrai souci général de reconnaissance de la difficulté dans les fins de carrière à continuer d'exercer les métiers. Et dans l'éducation, c'est le cas. Et donc, on sera avec tous les salariés pour le dire. Justement, dans l'éducation, finalement, cette opposition à la réforme, d'abord, elle a une spécificité, c'est que on est parmi les professions qui rentrent le plus tard en emploi. Et donc, souvent, les 43 annuités nécessaires là qui ont été actées par la réforme, elles seront acquises seulement à 66, 67 ans. Et donc, beaucoup d'enseignants, maintenant, se projettent sur la nécessité d'aller jusqu'à carrément 67 ans pour avoir une pension, parce qu'on exige d'eux des études et parce que, du coup, effectivement, ils sont longtemps en emploi.
Le 19, les élèves pourront-ils être accueillis à l'école?
Le 19, on aura très, très probablement, d'après les premières remontées qu'on a, beaucoup de grévistes, hein, d'ores et déjà, on peut penser que la grève sera majoritaire, c'est-à-dire elle concernera plus d'un enseignant sur deux, si on parle des enseignants, et donc très probablement aussi, en gros, la moitié des classes, voire plus. Le plus, ça va dépendre de ce qui va se passer là dans les tout prochains jours, c'est-à-dire est-ce que tout le monde va se décider à faire la grève ou pas. On voit bien qu'il y a certains collègues qui sont encore hésitants, hein, qui se disent, bon, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de participer à un combat collectif? Nous, on pense que oui. La majorité des collègues commencent à le penser, donc on pense qu'on va même atteindre des taux de grévistes très importants. Et ça veut dire effectivement qu'il y aura des classes, des écoles qui seront fermées, probablement un service minimum d'accueil lui-même perturbé, parce que quand il y a des grèves dans les collectivités territoriales, de toute façon, il n'y a pas non plus de personnel pour accueillir éventuellement les enfants. Alors, in fine, au bout du bout, les enfants sont toujours accueillis, mais c'est vrai que, quand je dis ça, c'est in fine au bout du bout, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'endroits où il n'y aura pas beaucoup de solutions pour les parents, on en est bien conscient, on sait bien que ça entraîne des perturbations, nous-mêmes on ne fait pas la grève de gaieté de cœur, et si on veut montrer notre détermination, on sait aussi que c'est le seul outil qu'on ait, c'est pas le seul outil qu'on utilise d'ailleurs, hein. C'est le seul outil massif qu'on ait pour que tout le monde puisse aller dans les manifestations, puisse être visible et puisse montrer le mécontentement. Après, c'est pas le seul outil qu'on utilise, encore une fois. Je disais, mardi, on va faire plutôt des rassemblements. Les jours suivants, on va essayer justement aussi de développer des actions pour nous rendre visibles. Il s'agit pas pour nous, pour l'instant, de dire c'est la grève au long cours. Dans l'éducation, on n'appelle pas dès le lendemain à avoir de nouveau la grève, hein. Nous, on dit il faut vraiment, pour l'instant, se concentrer sur le 19, donc pour l'instant c'est une grève d'un jour, mais par contre dès le 19 au soir on a prévu de se revoir avec toutes les organisations et je pense que toutes les organisations seront très probablement sur la même ligne que nous, à savoir il faut une nouvelle journée d'action très rapidement et sans doute dès la semaine suivante ou dans les quelques jours qui suivront. Donc dès la fin janvier, voire tout début février, il y aura très probablement encore une deuxième journée d'action après le 19. On sait que le mouvement va devoir durer, mais ça va pas être très long non plus, parce que le débat parlementaire va pas durer très longtemps. En gros, à partir du 6 février, le texte devrait arriver à l'Assemblée nationale. Et à partir du 6 février, en gros, on a 50 jours probablement entre les navettes Assemblée nationale-Sénat, 50 jours utiles. Et au bout de 50 jours, le projet de loi pourrait se transformer en loi. Donc tout ce temps-là, on va le consacrer à essayer de faire monter en puissance la mobilisation pour que les députés ne votent pas ce projet de loi. Après, il faut aussi faire entendre raison, évidemment, au gouvernement. Et c'est tout l'enjeu de la période qui vient, de faire monter en pression, d'essayer d'avoir des grèves qui vont crescendo, qui se durcissent, comme on dit souvent, c'est-à-dire qui progressivement deviennent des grèves au long cours, comme on dit aussi, hein, c'est-à-dire des grèves sur plusieurs journées. Ça se construit. Je ne sais pas si on y arrivera. Ça entraîne des perturbations, ça entraîne évidemment des difficultés dans le pays. On ne fait pas de gaieté de cœur, encore une fois. Nous, on perd du salaire quand on fait grève, mais c'est absolument nécessaire. Là, c'est trop grave. On est en train de s'attaquer de manière trop importante à nos droits sociaux et de manière injustifiée en plus.
Vous nous dites donc que sans recul du gouvernement, d'ici l'éventuel vote de cette loi sur les retraites, les journées d'action pourraient se multiplier et se durcir.
Oui, c'est notre stratégie, hein, de monter en puissance, d'avoir des journées d'action très fortes, d'avoir entre deux journées d'action aussi des actions visibles, installer vraiment un climat d'opposition à cette réforme, expliquer, décrypter, faire des réunions publiques, hein, aller au-devant de toute la population, parce qu'il faut vraiment que ce soit un sujet de société. C'est comme ça que nous, on le pose. Hein. La retraite, c'est quel avenir on veut pour les personnes âgées dans la société. Est-ce qu'on veut qu'on use jusqu'à la corde les travailleurs pour qu'une fois arrivés à la retraite, ils soient usés et que finalement, on les mette au placard et que la retraite soit simplement l'antichambre de la mort? Ou alors, est-ce qu'on veut que la retraite, ça soit un moment où on puisse encore en profiter, on puisse profiter de ses petits-enfants, de ne rien faire, d'aller se promener, d'agir à l'intérieur de la société, dans les associations.
Vous soulignez que cette réforme des retraites peut nuire au secteur associatif qui pourrait manquer de bénévoles.
Bien sûr, la retraite, c'est un troisième âge, comme on dit souvent, hein, le troisième âge de la vie, il y a aussi le quatrième âge. Mais c'est un autre âge de la vie, comme disaient les gens qui étaient dans le Conseil national de la résistance en 1945, quand on a généralisé la retraite. Ça peut plus être l'antichambre de la mort. La retraite, c'est pas le moment où on nous met au placard parce qu'on est trop usé pour travailler, mais du coup trop usé pour intervenir tout simplement dans la société. La retraite, c'est un moment où on n'a plus de relation de subordination à un employeur, on n'est plus dans cette relation salariée, on est justement beaucoup plus libre, c'est une liberté extraordinaire hein, en réalité qu'on a conquise par les combats syndicaux.
Le secrétaire général de la FSU, Benoît Teste. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient, à 12h30 votre journal en langue arabe, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash, 17h30 pour le journal, l'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Stéphane Troussel, président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, membre du bureau national du Parti Socialiste, émission présentée par Loïc Barrière. Il est 12h18, très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.